Paddle.
C'est chaud. Hein.
Mais moi, je les ai bien vus. Hein. Quand j'ai vu De Angelis freiner, il se ratait déjà. J'ai dit là, ça va pas passer. Mais ici, là. Et c'est pas passé.
Il a tapé.
Un beau soleil aussi hein, pour De Angelis.
Et je trouve qu'on s'en sort pas mal. Hein. Il aurait pu avoir plus de pilotes par terre.
Il a failli avoir Elias. Hein. Il a touché Elias quand même, De Angelis.
Vous avez tout de suite compris, Jules, que c'était deux outsiders au tapis.
Oui, oui, bah, je les ai vus. Hein. Je ne savais pas s'ils étaient tombés, mais j'ai vu que ça commençait à s'élargir et un peu se toucher. Donc je me suis dit, là, faut passer. Quoi. Maintenant, on verra bien ce qui se passe. Mais j'ai vu qu'il fallait profiter de cette occasion. Hein.
Et Karel Abraham, c'est un ami.
Pourquoi cette question?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, t'as lui parlé après la séance?
Non, je voulais le voir pour dire au moins que c'était ce qu'il avait fait à la qualification, c'était dangereux.
Tu sais qu'en plus, il râle sur les autres. Juste 10 minutes avant, il râlait sur les autres.
Rémi, qu'est-ce qui s'est passé?
Il l'a gêné, Jules va nous expliquer lui-même. Hein. Il a dû le gêner dans le T4.
C'est un spécialiste de prendre des roues et de gêner pour à la fin de la qualification, faire le meilleur tour possible. Mais à ce moment-là, moi, j'étais dans mes meilleurs tours. Et dans un des virages les plus rapides du circuit, il était en plein sur la trajectoire et je me suis raté à cause de lui. Donc, j'étais énervé.
Pas de pénalité, Michel, quand c'est comme ça
Non, des avertissements, ils se font tirer l'oreille.
Même pas.
C'est un carton jaune, quoi.
Même pas. Il n'y a rien eu comme décision de prise.
Cela dit, avec 41 pilotes sur la piste, il risque d'avoir beaucoup de cartons. Et pouvoir en plus faire un tour clair, ça va être compliqué.
Mais j'avais avant mon dernier run pour la qualif, j'ai eu peur de pas avoir un tour clair. J'ai réussi à en avoir, mais
ça c'est un truc qu'il va falloir travailler vraisemblablement maintenant.
Ouais, je pense qu'il faut s'appliquer à essayer de rouler tout seul et puis pas chercher où sont les autres et voilà. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire. Je pense que ça a marché. Je me suis un peu raté et j'aurais pu faire une première ligne voir la pole. J'étais déçu, mais j'ai pu me rattraper pour la course.
Puis là, avec 40 motos sur la grille, c'est important de partir devant aussi.
Ah, c'est hyper important parce qu'on a pu voir que quand il y avait un petit écart, c'était vraiment difficile de remonter si l'adversaire ne faisait pas d'erreur. Donc la qualif est très très importante.
Alors, vous avez compris donc tout de suite qu'il y avait deux candidats potentiels au podium qui étaient out, Bradle et De Angelis. Rolian Simon, c'est peu de temps après. Qu'est-ce qui s'est passé pour Simon? Embrayage?
Embrayage, oui. Ils ont le système d'embrayage mis au point par Sutter pour éviter un peu le frein moteur, et puis je crois qu'il y a un problème. Aspar était vraiment super agacé.
Il n'y a pas que lui hein, dans les team managers. Il y a aussi notre ami Poncharal qui était furieux.
Oui, puisque les deux Tech 3 sont allés au tapis.
Oui, mais c'est différent.
Pas
là.
On en reparlera tout à l'heure de ce bilan un peu des Moto 2. D'abord, on va s'attarder au sort de Jules Cluzel. Donc, ces trois-là, out. Vous menez la course, vous faites un spectacle fabuleux là, pendant de nombreux tours.
Mais oui, c'est vrai que ça s'est bien passé. De toute façon, depuis les essais hivernaux, on a toujours été dans les 5 premiers. Donc on savait qu'il y avait moyen de faire une bonne course. Maintenant, on rencontre des soucis de dribble.
Tout le monde, non, du dribble, j'ai l'impression.
Et en fait, j'ai pu voir qu'après la course, tout le monde se plaignait de ce souci-là.
Mais ça se voit à l'image.
Vous y pensez quand vous attaquez comme ça dès le début du Grand Prix? Vous êtes devant, pratiquement, en tout cas dans les 3 premiers. Vous pensez pas à la durée de vie de vos pneus à ce moment-là?
Mais
parce
si.
Que, en effet, c'est le point entre guillemets noir de ces Moto 2 pour l'instant, les pneus.
Bah en tout cas, si tous les châssis déjà ont du dribble, c'est que vraisemblablement ça vient des pneus.
Ouais, bah on pense tous que ça vient des pneus. Les pneus, on savait très bien qu'ils allaient pas tenir la course, que ça soit l'arrière ou l'avant. La piste pour la course le dimanche était différente. Il y avait environ 10 degrés de moins que le samedi et le vendredi. Donc on a eu des soucis d'avant qu'on n'avait pas vraiment aux essais, sans compter le dribble. Et au niveau de l'usure des pneus, de toute façon, on était sur des œufs toute la course. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de chutes.
Moi, j'ai failli faire un high side à un moment donné.
Trois fois, je suis passé pas loin de la correctionnelle. Donc je me suis servi de la troisième pour essayer de me dire, bon allez, on respire, on se calme et on essaie de rallier l'arrivée. Et puis surtout, j'étais encore sur le podium. Donc,
Il y a eu un passage, Rémi, c'est sur Debon ou sur Elias, assez chaud ou...
Avec Elias plutôt.
C'est Elias, oui, c'est Elias que vous poussez.
Non, c'est Debon, je crois.
C'est Debon, vous pousse là que je m'y mette.
Debon deux fois, surtout une fois, j'ai été surpris par... Il y a des endroits où il freinait beaucoup plus tôt que moi. Et je l'ai passé sans le faire exprès, parce qu'il freinait plus tôt. Donc j'ai failli le toucher, on s'est même touché un peu. Et c'était assez chaud, ouais.
Michel, on se faisait la réflexion en préparant cette émission avec Gilles Delaposta, que Jules, comparativement à l'an passé, on a beaucoup ri, entre guillemets, on s'est beaucoup moqué de ses chutes, avait atteint, lors de ce Grand Prix d'hier, une certaine maturité. La fin du Grand Prix, on était tous, nous, ici, en régie, en train de regarder, en se disant « c'est pas possible, il va pas tenir, il va tomber, il va attaquer, il va aller au carton ». Or, on a eu l'impression qui justement il se mesurait en se disant podium, chouette, ah, j'assure.
Grandi, il va pas.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui le fréquentez plus souvent que nous, bah, en tout cas.
Je pense qu'il a plus d'expérience. En plus, là, je pense que cette année, il est quand même dans une équipe qui est plus structurée. Il sait qu'il a une moto pour, si ce n'est pas pour jouer le titre, pour être devant, enfin pour se battre devant. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est des éléments qu'il a pris en compte et qui font qu'il réfléchit davantage. Enfin, je sais pas s'il faut lui poser la question. Hein.
Moi, je pense qu'il a dit, voilà, je pense que j'ai pris de l'expérience. L'année dernière, je n'avais pas la moto que j'ai cette année comparativement aux autres pilotes. J'avais une moto inférieure et il fallait automatiquement aller chercher plus la limite. Mon objectif en fin de saison, c'était d'aller rechercher des podiums. J'ai eu 5 ou 6 fois la possibilité de le faire, mais j'y suis allé à chaque fois. C'était de l'acquis.
Mais justement, Philippe, cette année, tu es quand même un des favoris pour le championnat. Donc ça change tout par rapport à l'année dernière où sur la grille du Qatar, bon, tu étais là où tu étais, tu as fait un super Grand Prix, mais tu n'avais pas vraiment de pression. Là,
C'est pas un favori, Fille.
Pourquoi c'est pas un favori?
Bah, les favoris, c'est Elia, c'est Dandy, c'est les pilotes qui ont gagné.
Et je croyais que tu le voyais champion du monde en fin d'année.
C'est le cœur qui parle.
C'est ton favori.
C'est
déjà.
Mon favori.
Si c'est ton favori de quelqu'un qui connaît bien la course comme toi, ça peut être
mon
favori.
Parce que je connais bien Jules et que j'apprécie, c'est pas pareil.
Moi, je pense que t'es un des favoris, donc tu automatiquement, et toi aussi. Tu pars pas pour pas essayer de... Donc, c'était plus du tout dans le même état d'esprit que l'année dernière.
Non, ça n'a rien à voir. Je sais que j'ai une moto pour, si je ne fais pas d'erreur, et surtout, on bosse bien avec mon équipe, pour pouvoir être devant le plus souvent possible. Maintenant, on est 41. Je pense qu'on est une bonne vingtaine à pouvoir jouer un podium. On a pu voir que, pour l'instant, entre les essais et ce qui s'est passé au Grand Prix, il y a eu, Tomizawa. Bon, il a été vite quand même aux essais, mais pas si vite que ça. Et il nous a fait quand même une course assez... exceptionnel.
Il y en a qui sont pas prêts, vraisemblablement encore, non?
Je pense qu'il y en a qui sont pas prêts. Il y en a qui se cherchent un peu avec le 4 temps, parce qu'entre la 250 et le 4 temps, ça change énormément quand même au niveau du style de pilotage. Les pneus, les motos sont plus lourdes. Il y a quand même, et puis surtout là, la course, il fallait surtout pas faire d'erreur, parce qu'on peut très vite être au tapis. Donc il y a plein de paramètres qui font que la saison va être longue et difficile.
Le fait qu'il y ait beaucoup moins de réglages sur la moto par rapport à une 2,5, bon, la boîte, les rapports sont fixes, donc il faut juste jouer sur le braquet. Ça peut aussi modifier la vitesse de pointe, mais globalement, c'est les motos qui sont presque basiques, si ce n'est au niveau suspension, géométrie.
Ouais, c'est vrai.
Par rapport à la 2,5, c'est l'approche est différente.
Il y a vraiment que au niveau des rapports, on peut pas avoir le rapport qu'on veut dans chaque virage. C'est vraiment la grosse différence. Et bon, c'est pour tout le monde pareil, donc il faut faire avec. Mais bon, on a pu voir aussi dans le bout droit qu'il y avait des différences. Il y en a qui privilégiaient plutôt la ligne droite à certains virages. Ensuite, au niveau réglage châssis, quand même, on a autant de choix que la 250, voire peut-être même plus. Au niveau des châssis, ils sont quand même vraiment au point.
Je pense qu'il y a des écarts entre les différents châssis.
Pour l'instant, il n'y a pas de gros écarts parce que je pense qu'on n'a pas les pneus qui permettent, de donner la différence avec les châssis. Donc on verra, mais à mon avis, il va y avoir quelques courses où ça va être comme au Qatar. Et à partir de quelques Grands Prix, Dunlop va nous emmener, j'espère, des pneus un peu plus performants pour faire la différence.
Puis pour l'instant, Rémi, vous avez roulé sur 4 circuits seulement.
Ouais,
donc pour l'instant, on n'avait pas en placé une, Rémi. Hein.
Bon, alors, Olivier Jacques, c'était l'homme de Rio. Toi, je te l'ai dit à Rérez, 15 chutes la dernière. Si tu veux pas qu'on t'appelle l'homme du Qatar, il faut que tu nous prouves maintenant que tu peux aller sur le podium et gagner sur d'autres circuits que celui-là.
Mais j'ai tous les atouts pour le faire. Donc l'année dernière, c'était quand même inespéré le podium au Qatar. Personne ne le savait. J'avais pas la moto pour. J'étais dans une petite structure. Là, cette année, j'ai quand même la moto, j'ai l'équipe. Moi, j'ai plus d'expérience. Je pense que ça va être différent. J'espère.
Ça te plaît? Ça te plaît plus que la 2,5, cette catégorie?
C'est vraiment différent.
Pendant que vous répondez, on va voir les images de Shoya Tomizawa qui a donc remporté l'épreuve hier.
Donc ouais, c'est vraiment différent. C'est des motos qui glissent vraiment beaucoup plus qu'une 250. Moi, j'aime quand... de toute façon, c'est une passion, la moto. Donc c'est de la glisse, c'est la bagarre. Et là, cette année, c'est vrai qu'on a les deux. Donc moi, ça me gêne pas. J'aimais la 2,5, c'était différent, et j'aime aussi le Moto 2. Je pense qu'il faut s'adapter à tout ce qu'on... De toute façon, il faut faire avec.
Alors justement, messieurs, on va commencer par Michel. Qu'est-ce que vous en pensez après cette première course, la Moto 2, châssis, moteur unique, les pneus, les courses, le nombre de pilotes, ça vous inspire? C'est une réussite pour l'instant?
Au vu de ce qu'on a vu hier, oui, indéniable. Il y a du spectacle, des rebondissements. Bon, je pense que tous les ingrédients sont là pour avoir un super championnat. Quoi.
Alors pour nous à la télé, c'est sûr, hein, c'est comme quand il y avait 30 pilotes au Mondial Supersport. Nous, on va se régaler, ça va être top. Hein. Eux, ils vont se régaler parce qu'il y a 41 pilotes, donc forcément, même s'il y en a qui tombent et les tops, c'est bien. En revanche, j'ai regardé les mails des téléspectateurs, il y a quand même beaucoup, beaucoup qui regrettent la 2,5. Et quand on voit par exemple le Grand Prix, est-ce qu'on va pouvoir avoir un aussi beau Grand Prix que le Grand Prix du Mugello la dernière?
Pourquoi il regrettera la 2,5?
Bah parce qu'ils regrettent le
fait que c'était de deux temps, oui, d'accord, hein, mais au niveau spectacle, il y avait les peu de gens que j'ai entendu,
il y avait du baston.
Ils ont dit que c'était le plus beau Grand Prix hier.
Il y en a qui regrettent les vinyles et la bougie aussi.
Bah oui.
Ouais, et puis là, pour avoir eu la chance de voir ce départ, 40 motos qui partent ensemble, c'est
énorme ce premier virage. Non, moi je pense que c'est une belle réussite.
Enfin, je sais pas, d'être au milieu, ça doit être un truc.
En tant que pilote, vous prenez plus de plaisir sur une moto 2 que sur une 2,5?
Mais je prends surtout plus de plaisir à être devant 41 pilotes que devant 25. Ça, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'on est 41, mais on est. Je pense qu'il y a un bon niveau quand même. Quand on voit les De Angelis, Elias, qui sont quand même des pilotes qui arrivent à faire des podiums en MotoGP.
Il y a un super plateau.
Les pilotes de danse. De
Elias 150. A fait les grands prix en GP et a gagné pas De Angelis. Hein. Il a fait 4.
Oui, non, mais il a fait podium quand même.
4? Je pense pas qu'il
non,
fait
il a
podium,
fait podium aux États-Unis l'année dernière.
Il fait podium.
Ouais, ouais. Et puis il a toujours été devant. Non, j'ai quand même analysé un peu la chose. Mais non, on est quand même, beaucoup. Et je pense que même les pilotes de Superstock, comme mon coéquipier, sont les pilotes qui sont vite.
Qu'est-ce qu'il t'a dit justement? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Parce qu'il était loin, on l'a jamais vu.
Il a le même souci que moi, j'ai rencontré depuis plusieurs essais et pendant la course, le souci de dribble.
20e, il a failli.
Ouais, et puis au-delà du dribble, quand même, vous avez des problèmes avec les Dunlop. Il n'y en a pas un pareil, quoi. Donc ça, c'est carrément embêtant.
Et ouais, on a un pneu sur deux, des fois, qui sont pas pareils.
Ça a été souvent un souci, quand même, hein, chez eux.
Qu'est-ce que dit Dunlop là-dessus? Parce que depuis les essais de Jerez où Rémi est allé, c'était déjà le problème, le dribble, les pneus qui ne tiennent pas, l'inquiétude des pilotes, des
patrons d'écurie. Après, les pneus, l'usure, c'est pas une question d'usure, puisque moi, Jerez, j'ai discuté avec plusieurs équipes, ils m'ont dit les pneus, ils font 40 tours. Quoi. Par contre, le grip,
ouais, voilà. Plus.
Donc ouais. Ça ne met pas en péril l'état du pneu. En revanche, au bout de 3 tours, c'est des savonnettes. Quoi.
Ouais, bah, à Jerez, on n'avait pas le même choix de pneus qu'on a eu au Qatar. Au Qatar, ils étaient déjà envoyés depuis un certain moment. Ouais. Et le pneu de Jerez, je crois qu'on ne l'aura qu'à partir de Jerez, du Grand Prix. Donc à Motegi, on fera encore avec les mêmes pneus que le Qatar. Et au Qatar, on faisait 4-5 tours et ils étaient détruits. C'était différent, quoi.
Rémi, un mot vous l'avez dit tout à l'heure, de Tech 3, les deux machines au tapis, Takahashi, Rafael et De Rosa. C'était pas la fête hein, pour ce week-end.
Alors, on discutait avec certains pilotes qui avaient l'impression au bord de piste que les deux chutes étaient similaires et qui se demandaient, même si le patron avait l'air de taper un peu de grenier après les pilotes, se demandaient, Michel, si ça n'aurait pas été plutôt peut-être un problème qui viendrait du châssis, par exemple.
Je vois pas. Enfin, je pense que l'analyse d'Hervé est la bonne. Je pense que si Takahashi est tombé, c'est parce qu'il a vu tout mis à voix devant et qu'il a vu rouge. Quoi. Il ne voulait pas voir un autre japonais devant.
Oh, puis on a vu quand même que c'était assez facile de chuter hein, dans cette catégorie. Les pilotes, à un moment donné, avec le dribble, on sent que si ça glisse de l'arrière, ça dribble de l'avant. Donc à un moment donné, si on essaye d'en faire un peu plus, Jules, on voit qu'on peut vite se mettre par terre, non?
Mais là, la course, c'était vraiment fallait vraiment faire attention, quoi. C'était vraiment toute la course avec le pneu avant qui glissait, vraiment. Et de toute façon, ils sont tous les deux tombés de l'avant. Et puis l'arrière, ben voilà, c'est plus contrôlable, mais c'était de toute façon, voilà, il fallait faire attention avec les pneus. Voilà.
Vous avez remarqué que les trois pilotes sur le podium venaient tous de la 2,5. On se demandait de qui allait être les plus forts. C'est peut-être un hasard, mais tout le monde vient de votre ancienne catégorie.
Ouais, moi aussi j'ai pensé, quand j'ai vu le podium, c'est bien que ça vienne de la 2,5.
C'est la continuité?
Ouais, c'est la continuité. Maintenant.
Sauf Mike, hein, on a perdu Mike dans la guerre par rapport à la dernière.
Ouais, bah, maintenant ça va être des courses où le prochain Grand Prix, sûrement qu'il y aura d'autres protagonistes pour la victoire. Et. Je pense que De Angelis, Elias, bon voilà, ils seront là. Elias, je pense qu'il
va vraiment être là. Bon, là, il faut pas oublier qu'il
pense pas que ça va quand même être à un moment donné les mêmes qui vont toujours être là, les 5-6 mêmes qui vont dominer.
Je pense que oui, on va être quand même un groupe qui seront toujours présents. Maintenant, il y aura souvent de temps en temps des nouveaux, quoi. Je pense que ça va être chaque Grand Prix différent.
On va quand même rendre un grand hommage. Bravo, il a fait podium, mais le héros hier, c'est quand même Tomizawa, et donc. Il a été suffisamment taillé, critiqué par beaucoup de Français dans le paddock. Un grand, grand chapeau à la Bronec, parce qu'il n'a jamais rien fait avec son équipe de France avec Mac Di Meglio, tous les pilotes qui sont passés.
Il faut rappeler que c'est une structure française.
Voilà, et là, c'est suisse, il y a un sponsor suisse, il y a un pilote suisse, mais il y a Gilles Bigot aussi, il y a quand même deux Français qui ont brillé hier, un grand coup de chapeau pour eux.
Ouais, le patron est français quand même.
Voilà, le team manager est suisse comme un bœuf.
Puis le pilote ne doit pas être trop mauvais non plus.
Hein, non, mais de toute façon,
il est doué, connaît pas, mais il a 19 ans, c'est sa deuxième saison. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Jules.
Bah moi, je pense qu'il c'est un pilote qui est de toute façon qui était même vite en 250, sauf qu'il avait pas la moto non plus pour vous démontrer ses.
Ouais, puis il avait pas l'expérience.
C'est ça qui est bien cette catégorie, c'est que ça permet à des pilotes
de
se montrer.
Ouais, bah on a tous le même moteur, donc voilà. Après, les châssis pour l'instant font pas vraiment la différence.
T'as donc, vu Jules le moment où il est parti? Tu t'es rendu compte qu'il s'échappait, que c'était
extérieur? Et ouais, au moment où il me passe, c'est au moment où moi je commence à faire 2-3 erreurs. Et à ce moment-là, je me fais rattraper par Debon et Elias, et on se bagarre un petit peu. Et à ce moment-là, on essaye quand même de revenir, mais il fait pas d'erreur. Donc c'est de ce côté-là que je pense qu'il
vous
a été.
Tous les deux sur le même châssis. Hein. Donc,
ouais,
là, c'était
ouais.
Vraiment égalité de moto.
Ouais, lui a vraiment été impressionnant sur la constance au niveau des chronos.
Sur la fin, il a réussi à s'échapper aussi parce que vous êtes gêné. Il avait.
Il était vraiment
fluide et tout.
Il y a un moment où j'ai essayé vraiment de m'accrocher à le regarder, à essayer de revenir. Et j'ai vu qu'on restait pareil. Il y avait pas de. J'arrivais pas à revenir. Mais il partait pas. Et à ce moment-là, on a commencé à se doubler. Et puis il a commencé à partir un petit peu, quoi.
Un mot des autres Français, Rémi, Mike Di Meglio, 16. Valentin Debis, 24. Anthony Delalle, 25.
Delal, super, hein, pour un gars qui roule en endurance, il termine pratiquement dans la roue de Valentin Debis. Mike, on se doutait que ça allait être dur. Valentin, on est un petit peu déçu pour lui. Mike, tu penses qu'il va y arriver à un moment ou à un autre?
Mais je pense que c'est un bon pilote qui a du talent, donc j'espère pour lui, oui. Et puis...
L'année dernière, quand j'avais dit qu'il était ici même après le Qatar, qu'il était un
c'est
peu
plutôt
plus
flatteur, fort que toi, Rémi, de Loïc Faujour. Si on peut le remettre, Jeff, on a tous le même moteur, on n'a pas tous le même mental, donc ça c'est plutôt bon pour vous, Jules.
Chacun son mental, hein. Moi je ne sais pas lequel est le mien, mais... Mais bon, moi, mon objectif, c'est de gagner des courses, donc je donne mon maximum.
L'année dernière, donc, à un moment, j'avais fait une réflexion et on avait vu après ça des recherches que tu avais baissé les yeux parce que tu pensais que tu étais au moins aussi fort que Mike. Là, pour l'instant, il n'y a pas photo. Là, tu es le meilleur Français et de loin dans cette catégorie-là.
Ouais, mais ça veut rien dire. Moi, je n'ai pas envie de rentrer trop là-dedans parce que je pense que Mike est un bon pilote. Il a été champion du monde. Moi, je n'ai pas été encore.
Mais le grand public peut être surpris quand même de voir que tu domines comme ça, Mike Di Meglio. D'un coup, là, avec cette moto 2.
C'est le premier Grand Prix, hein. Il faut.
Voilà,
faut
il y a eu les essais hivernaux aussi.
Il a quand même, ouais, mais il était loin, il était quand même assez content, mine de rien, à l'issue du Grand Prix, parce qu'il a fait. Il s'est senti beaucoup plus à l'aise que ce qu'il avait fait pendant les essais.
Il dit avoir eu un gros problème de dribble.
Il avait du dribble, beaucoup aussi, comme la plupart, mais qui gênait peut-être plus, lui.
Et je connais Jules, même s'il le dit, il a envie de taxer Mike Di Meglio.
Ah bah bien sûr,
j'ai envie de tous les taxer maintenant. Moi, je pense
qu'il aurait pas gagné. Enfin, il serait pas.
Mais je pense pas qu'il
ait pas envie de taxer les autres.
Il
a pas gagné. Hein.
Il faut pas enterrer Mike, hein, parce que Mike, c'est comme le dit Jules, c'est un très très bon.
L'idéal, ce serait comme l'an dernier au Qatar.
Ils vont se retrouver un moment ou un autre dans la saison.
Deux Français sur le podium.
Mais ça serait super pour la France.
Et ben voilà.
Allez, vive la France, t'as raison.
Un mot très vite, messieurs, avant la pub de la 125, juste pour vous montrer ou vous remontrer l'image de la victoire de Nicolas Terol hier. Il devance deux autres Espagnols, puisque c'est un triplé espagnol, Efern Vázquez et Marc Márquez. Masbou 10e, Zarco 12e. On est peut-être un peu déçus pour Masbou.
Pour Masbou, non. Pour Zarco.
Pour Zarco, Masbou, oui, c'est bien.
Bah finalement, non, on l'a entendu. Et puis, si on regarde bien, il fait 15e l'année dernière pour son premier Grand Prix ici. Là, il a gagné 3 places. Un mot juste, on s'en est peut-être pas rendu compte dans le Grand Prix. Les Espagnols, ils ont trusté toutes les places, les meilleures places sur la grille. Il y avait un Grand Prix, je crois que c'était la dernière en Allemagne, où il y avait eu 5 Espagnols aux 5 premières places. En revanche, elle est où la relève italienne? Ils n'ont que 3 pilotes et qui sont du bas de grille. Il n'y a pas du tout de relève italienne en Grand Prix 125 là, cette année.
C'est
du
vrai.
Tout, du tout, du tout.
Merci Michel pour cette analyse.
Non, mais c'est, je me suis fait la réflexion aussi. Et vous
À la limite, c'est pas la bête qu'on t'invite parce que tu as les mêmes idées que Rémi. C'est énorme.
On précise, oui, aussi
17e.
Et Quentin Jacquet.
C'est le même constat.
C'est 23e. Bon, probablement vous marquez une petite pause, vous réglez vos comptes, et puis on se retrouve après. Justement, après la pub, on parlera de la MotoGP, de la victoire de Rossi, de la chute de Stoner, bien sûr, et des difficultés, notamment de Dani Pedrosa. À tout de suite.
Merci.
Je vous en prie.
Merci.
Je vous ai dit, c'est...
Merci.
En avril, chez Citroën, vous n'avez pas fini de dire merci et profitez du Ludospace Citroën Berlingo Bivouac à partir de 11 990 euros.
Premier domaine expert, efficacité, 48 heures dry non-stop, billets extra large, spray intense, déodorant 48 heures de L'Oréal Men Expert.
Quand on est cool ici, on est cool là.
I can start all over again. I can listen to my own rhythm. I can believe. Says who? Only the brave, the new fragrance by Diesel.
Découvrez la nouvelle édition limitée Hard Toys. Diesel, only the brave.
Mon papa, il maîtrise l'électricité et le gaz naturel de tout l'univers. Et il peut arrêter le temps aussi.
Avec Dolce Vita 2 Énergie 2 ans, vous avez la garantie d'un prix fixe pendant 2 ans pour l'électricité et le gaz naturel. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez.
Personne ne croyait qu'il était possible de traverser les deux pôles en solitaire. Et pourtant je l'ai fait. Personne ne pensait qu'il pouvait exister une voiture avec une telle ligne, un tel équipement, à un tel prix. Et pourtant, Chevrolet l'a fait.
Nouvelle Chevrolet Cruze. Elle va au-delà de vos attentes à partir de 14 990 euros. Et en plus, vous roulez en Chevrolet.
Suivez toute la saison automoto sur Eurosport.fr. Toutes les réactions et chronos en direct des Grands Prix ainsi que la F1 et la WTCC en intégralité.
De retour sur le plateau de Motocritique, toujours en compagnie de Jules Cluzel, troisième hier au Qatar, mais aussi de Philippe Moindret, Michel Turcot, Rémi Tissier. Et puis juste pour recommencer, pour le plaisir,
ah oui.
On ne peut pas résister, on va se remettre ce grand moment de Philippe Moindret. Philippe Moindret,
il y a une chute.
Magnifique, toujours excellent.
C'est la file d'accord. La file d'accord, 91. Oh, c'est Moindret, le hamster est au sol.
Ça y est, c'est fini. Bon,
je pense que... Hein.
Oui,
n'oubliez pas, je vais te revenir en baptême bientôt à Ménicourt.
Je pense que les cadres vont être... Ça va, Jeff? On peut continuer? Oh, allons-y. Et justement, puisqu'on est là, je voulais vous rappeler que le prochain Motocritique, ce sera le 26 avril après le Grand Prix du Japon. Sans Rémi Tissier, on va enfin pouvoir faire une belle émission.
Avec un certain... Turcot ou pas?
Je pense, Michel, vous serez là?
Bon, elle a quand même à moitié gâchée quand même.
Il y aura un certain Mathieu Kassovitz, Philippe. Vous avez tourné des choses avec lui il n'y a pas longtemps pour Automoto.
Hier, c'est passé.
Et puis sympa. Le 3 mai, après le Grand Prix de Jerez, il y aura un certain Yves Demaria.
Franchement, il est sympa de venir. C'est comme Jules, là, parce que... Il y a les essais de Randy, il va arriver, ric-rac.
On rappelle que c'est le préparateur de Randy, qu'il a été triple champion du monde de motocross, j'ai bien révisé.
Les Marseillais, surtout.
Les Marseillais. Et puis, c'est un client et nous avons dû, mon cher Philippe.
S'entraîner.
Oui, s'entraîner. Mais
il fallait trouver un coach.
Et regardez un extrait de ce que nous avons fait.
Vous savez que dans Motocritique, c'est Yves Demaria qui vient. J'ai réussi à le baratiner. Je lui ai fait croire qu'on faisait du tout-terrain. Il va falloir qu'on progresse. Alors moi, vous savez, le tout-terrain, c'est pas mon fort. Je suis pas sûr d'avoir choisi la bonne moto. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a fait venir Cyril Neveu. Là, il va nous coacher. Salut Cyril.
Salut.
Une équipe de bras cassés.
Ouais, et j'ai peur qu'il y ait du boulot. Hein.
Je veux mon neveu. Surtout avec Moindret.
Pourquoi? Parce qu'il y a...
Alors là, là, faut pas que t'existes. Il faut que tu mettes des tartes. C'était pour la piste. L'autre fois, j'avais réussi un peu à les former sur la piste.
Non, mais
des tartes.
Tu me dis que j'avais carte blanche.
Tu peux y aller.
Philippe m'avait dit qu'ils étaient doués, mais là, c'est des surdoués.
Oh,
J'ai jamais vu ça.
C'est trop dur là, Charles.
Moi, je suis pas comme mes potes, je connais mes limites.
Ouais, bon, enfin, les limites de tes potes, elles sont limitées aussi. Hein. On leur a filé que des 80 et on a bien fait. Hein.
Alors, à la télé, il faut être bien avec le présentateur, il faut lui faire les pompes.
Et voilà, et comme ça, on voit que le petit gros qui chute en jaune, c'est toi qui monte pas la côte.
C'est pas vrai. Vraiment, j'avais un casque d'abord.
La boule jaune qui redescend dans le bois.
En tout cas, d'ores et déjà, un grand merci à Cyril Neveu d'être venu s'amuser avec nous, parce qu'on on a passé un bon moment. Donc, ça sera Yves de Maria, vous l'avez vu, le 3 mai. Et n'oubliez pas Mathieu Kassovitz, ce sera le 26 avril. Vous sens dubitatif, Rémi.
Il y a Roberto Rolfo qui nous a dit OK, et normalement, avant qu'il ait gagné hier, il y a Tomizawa qui nous a dit OK aussi. On avait un peu de pif, on s'était dit que peut-être qu'il pouvait faire
mais
un
truc. Mais hier, je me suis trompé, moi, j'ai dit Moriwaki au lieu de dire Tomizawa, je ne sais pas pourquoi. Mais au niveau japonais, ça va être difficile quand même.
Non, j'ai progressé après quelques cours.
Domo arigato, OK. Allez, passe maintenant à la MotoGP, et puis surtout, on va appeler ça quoi, la déception du week-end. Celle de Casey Stoner, en pole position, remonté comme un coucou. Il était donné favori et puis chute après seulement 5 tours.
Et puis trop vite, je pense, hein, parce que d'un seul coup, il a tourné. Dans le tour précédent dans lequel il est tombé, il a tourné une seconde plus vite que ses adversaires.
Alors,
je pense
que ça ne vous rappelle rien, Philippe Michel.
Chute que personne n'a vue d'ailleurs, hein, en tout cas pas
vous,
à l'image. Hein.
Vous pensez que c'est la première fois qu'il fait ça? Souvenez-vous, Burnaud et Misano en 2008, quand il perd le titre face à Rossi, c'est au 6e et au 7e tour qu'il tombe. Et là, exactement pareil, il essaye de s'échapper, souvenez-vous. Et il va plus vite que ce qu'il peut. Alors qu'il pourrait gérer, il a refait exactement la même chose. C'est exactement le même scénario, on a regardé. Vous vous souvenez de Misano?
Oui, non, mais de toute façon, je pense que le plus dangereux rival de Stoner, c'est lui-même. Hein. Ouais. Là, c'est sûr, là, au moment où il passe en tête, il colle plus d'une seconde à tout le monde. Et il signe le record du tour en 1:55.0. Que ce que personne, même Rossi, son meilleur tour, il a une demi-seconde après sur la course. Et bon, là, il pouvait y aller. Non, c'est ça.
Les chiffres,
une demi-seconde.
Jules, Rossi, vous étiez sur le muret, vous regardiez?
À ce moment-là, je sortais encore
tout le protocole.
Tout le protocole, donc j'ai pas tout vu, mais c'est apparemment, et j'ai entendu la même chose, qu'il était une seconde plus vite, donc c'est vrai que c'est dommage. Quoi,
ouais,
parce qu'il aurait pu rouler un poil moins vite, il aurait quand même gagné la course.
Oui, il serait échappé à une demi-seconde.
Le problème de Stoner, c'est qu'il ne sait pas
mettre le lait
à fond. Ouais.
Pourtant, trois victoires.
Il ne boit plus du lait maintenant. Hein, donc, c'est Rossi qui boit du petit lait là maintenant avec son problème de lactose qu'il avait.
Mais il a dit que le plus grand adversaire de Stoner, c'était lui-même. Après cette course-là, on peut presque déjà conclure que le plus grand adversaire de Rossi, ça va être Lorenzo et peut-être pas Stoner. C'est déjà 25 points à rattraper, ça va l'occuper, hein, Stoner.
Mais attends, il a quand même fait les deux derniers tours de folie, Lorenzo.
On va y venir, on va en parler de Lorenzo.
Dernier
mot sur Stoner.
Lorenzo a été assez surprenant par rapport aux essais qu'il avait fait hiverno, mais c'est pareil, Dovizioso. Il y a eu aussi Spies qui a roulé vite.
On va en parler de tout ça.
Juste un truc sur la personnalité. Lorenzo, je pense qu'en assurance en MotoGP, quand il parle, il a à peu près la même personnalité que toi. C'est-à-dire que c'est « je vais y aller, je doute jamais, je bing, 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 bing ».
Moi, je pense pas être comme ça. Hein. Je pense pas dire que je vais faire un podium ou que je vais faire la pole avant de partir. Mais après, je sais pas, je connais pas Lorenzo.
On t'a jamais vu douter. Mais tu m'avais dit « reste que tu le caches, en fait ».
Je le cache bien.
Tu caches ta nervosité.
Mais je pense que je suis comme tout le monde maintenant. Peut-être que je fais moins voir que les autres.
Lorenzo, il doit bien douter aussi. Hein. Tout le monde doute.
C'est pas qu'il va gagner le Grand Prix.
Par contre, Lorenzo, quand il doute, il en parle.
Bon, et on va en parler après, vous permettez, là?
Alors, on parle de quoi, alors, maintenant?
Qu'est-ce que ça veut dire?
De Lorenzo.
On va finir de dire d'abord que Stoner, c'est dommage, parce que c'était trois victoires à Qatar, 4 avec la 250. Et puis, on va parler d'un notre ami Dani Pedrosa.
Vous m'avez pas laissé finir.
Oui, Stoner. C'est vrai que vous étiez le seul à vouloir parler de Stoner.
Je voulais rajouter un petit mot sur Stoner, la dernière course de la saison 2009. Qu'est-ce qu'il a fait?
Il est tombé.
Boulette dans le warm-up. Là, ça fait. Il finit mal et il commence mal.
Là, on a Dani Pedrosa. Dani Pedrosa et Honda, pas terrible, 7e au Qatar. Seulement une course, et voilà Dani qui, on peut dire, n'est plus leader de son équipe. Dovizioso a pris le pas. Il a arraché une troisième place de haute lutte avec Nicky Hayden. Ça vous étonne ?
Il a fait un super départ. Il a fait de très beaux premiers tours, puis il s'est écroulé. Je pense qu'il a retrouvé les problèmes qu'il a eu pendant les essais. Mais il a été dominé, effectivement.
Et pourtant, une Honda avec un moteur du tonnerre, a priori, en ligne droite, c'était assez impressionnant.
Là, c'est sûr que c'est avec son moteur, qui double Hayden sur la ligne d'arrivée. Voilà, ils ont un super moteur. Par contre, le châssis, là, ils sont vraiment perdus.
Je pense qu'avec le nouveau calage, la Ducati a perdu un petit peu l'avantage qu'elle avait en vitesse de pointe. Bien que c'est pas que le moteur, parce qu'il y a aussi l'aéro, mais et que Honda a fait un moteur vraiment très puissant et que c'est un avantage. Mais
ça inquiète beaucoup aussi.
Ouais. Ce qui est important, c'est d'avoir une moto qui est bien sur un tour. Et pour l'instant, sur un tour, c'est la Yamaha qui est bien sur un tour.
Et les suspensions, parce qu'on dit que depuis hier, il était depuis longtemps en Hollins, mais souvenez-vous. Dovizioso, il est bien passé en Hollins aussi à Misano la dernière, donc il avait l'avantage, il les connaît déjà mieux que Pedrosa. Est-ce que ça peut jouer, Michel ?
Apparemment, ça ne se situerait pas vraiment au niveau des suspensions, mais plus au niveau du châssis.
C'est étonnant que les deux meilleurs pilotes Honda, c'est ceux qui se connaissent déjà
Hollins. Il y a un truc qui me chiffonne un peu, c'est que les Michelin, ça ne va plus, il faut mettre des bridges. Les suspensions, ça ne va plus, il faut mettre des Hollins.
Pour Pedrosa
et puis pour les Honda. Ben, je pense que c'est surtout ce qui manque, c'est un vrai mec qui développe les motos, comme le fait Rossi chez Yamaha.
Puis, éternel débat dans cette émission.
Ils sont arrivés avec 5 cadres, c'est ça.
Le mental de Dani Pedrosa. Rosa, ça,
à chaque fois, qu'à le mettre en moto 2 avec Cluzel.
À chaque fois, on en parle. À chaque fois, on se dit, mais est-ce qu'il est capable de tenir ?
Mais c'est un super pilote, non, ça c'est clair. Mais moi, je pense que la mise au point de trouver des solutions pour faire une très bonne moto, quoi.
Là, il l'a. Franchement, il quand même c'est pas au niveau du mental le problème de Pedrosa. Ouais,
Dovizioso lui a mis une claque hier, quand même.
Jules,
ça peut même le motiver, même.
Il y a eu Donington la dernière où il gagne, mais sinon, Dovizioso, il a raté sa première saison en MotoGP. Donc là,
votre avis sur Dani Pedrosa ?
Moi, je pense que
sa première comme pilote officiel,
ça doit l'énerver. Maintenant,
oui, un petit peu.
Dans mon cas, ça serait la même chose. Maintenant, je pense que Pedrosa, oui, lui, il est comme tout le monde. Et puis, c'est un gagnant. Il a un bon mental, je pense. Et voir son coéquipier et voir surtout Randy, un autre pilote qui est privé qui arrive à être devant, ça doit l'énerver un peu. Ouais.
Et quand tu arrives avec 5 châssis quand même différents pour le premier Grand Prix, tu ne sais pas lequel choisir. C'est que tu es quand même dans le doute.
Le doute, ils y sont depuis les premiers essais en Malaisie.
Là, il y a quand même un problème, c'est qu'il n'y a pas de pilote, leader, pas dans le sens pilotage, mais dans le sens metteur au point, qui est capable de faire le boulot que faisait Rossi quand il était chez Honda.
Non, Michel ? Il sortir bien, parce que Simon Shelley est...
Vous, Jules, la mise au point, l'aspect technique, c'est pas un domaine où... Enfin, vous avez fait des progrès, mais c'est pas un domaine où vous excellez, si ?
Ben, j'apprends. C'est la première année que j'ai une équipe technique... vraiment avec de l'expérience et au point. Et
français d'ailleurs.
J'ai mon chef mécano espagnol. C'est surtout avec lui que j'apprends à travailler sur le châssis.
Il y a Benoît aussi qui travaille avec toi.
Il y a Benoît, c'est mon mécano et c'est une équipe qui était chez Kawasaki par le passé. Donc et l'année dernière chez Hayate. Donc
avec
c'est vrai.
Ferracci de l'autre côté pour la moto de Corti.
Donc ils ont tous l'habitude de la MotoGP qui est quand même une catégorie, la catégorie reine. Donc pour le travail et pour surtout le sérieux au niveau dialogue et puis surtout analyse des séances, j'apprends beaucoup en ce moment.
La deuxième Honda du classement, messieurs, de cette course MotoGP, la sixième place, n'est autre que celle de Randy de Pugnet sur la LCR. Randy parti en quatrième position et qui, à la fin du premier tour, était neuvième. Il a dit qu'il ne s'était pas trop raté sur son départ, mais quand même un petit peu et qu'il aurait pu mieux faire. Votre avis sur la prestation du Français ?
Super, super. Ça aurait encore été mieux s'il avait fait un meilleur premier tour. Il le regrette, on en a parlé avec lui, mais c'est les chronos aussi qui comptent. Il roulait dans les chronos des meilleurs. Donc ça, c'est bien. Il est en confiance. Il a une moto qui sent bien. Jules, il nous a dit que...
Il est super content. Voilà, déjà, après les tests du Qatar, il m'a dit qu'il était heureux d'avoir une moto qui marchait aussi bien comparativement à l'année dernière.
Et pour Motegi, il est super confiant. C'est bien parti.
Michel, ouais, il a fait une super course. C'est vrai qu'on peut regretter ce premier tour. Parce que sans ça, il aurait peut-être pu s'accrocher à Hayden et se battre pour le podium.
Je crois qu'il y en a qui a raté un
départ à l'extérieur.
Il y en a qui l'a poussé. Non, il y en a qui a raté un peu son départ devant.
En tout cas, il prend 2 secondes dans le premier tour et ces 2 secondes, elles manquent à la fin parce qu'il est. Bon, les 3 derniers tours, il a lâché l'affaire, mais sinon, il est à moins de 10 secondes de Rossi.
Et puis, c'était propre.
Enfin, le plus surprenant, c'est quand même Rossi qui n'a pas roulé très vite. Quoi. Je pense que c'est.
Je sais pas s'il était David Brivio, d'ailleurs. Ouais, ouais.
Je sais pas s'il était au mieux au niveau du réglage de sa machine.
Il s'est surtout plein du manque de performance de son moteur. Et puis, il avait une moto qui glissait beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est tombé en pente d'essence juste après l'arrivée, parce que la moto patinait. Ils ont consommé beaucoup plus que ce qu'ils pensaient.
C'est là où Stoller a vraiment été couillon et il peut vraiment regretter, hein, parce que Rossi gagnait sa
avant la course.
De toute façon, Rossi savait qu'il était intouchable. Mais,
ouais. Avant la course et après les qualifs, Rossi disait en effet qu'il y avait encore quelques points de réglage et de mise au point où ils avaient des soucis, qu'il n'était pas totalement serein. Alors que Stoner était de.
Les Yamaha n'ont jamais été bien sur ce circuit. Donc
Mais il a eu chaud quand même, hein, parce qu'il est tombé, en panne d'essence dans le tour pour rentrer. Mm. C'est-à-dire que ça s'est joué à peu de choses. Hein.
Il est arrivé sur son petit scooter.
Il a un petit peu forcé sur la fin, pour justement, parce qu'il voyait que la moto de Vicioso était très rapide. Donc il n'avait pas envie que lui arrive la mésaventure qui est arrivée à Hayden, se faire doubler juste sur la ligne. Donc il a refait un petit effort pour prendre un peu de marge, mais il a vraiment eu du mal, quoi.
Et puis il a expliqué qu'il a fallu qu'il s'applique, hein, pour réussir à faire ça, parce qu'il n'était pas aussi bien, même en réglage.
Il y avait une image drôle aussi à la fin du Grand Prix, où il fait signe à tous les pilotes qui le dépassent, qui viennent le féliciter. On sent qu'il essaye de leur expliquer « je vais tomber en panne d'essence, prenez-moi » ou il n'y en a pas un qui s'arrête. Donc comme quoi, le plus grand rival certainement, en tout cas en ce début de saison, pour Andy De Puniet, ça serait l'Américain Ben Spies. Non, qui a fait quelque chose de magnifique hier.
Enfin, déjà, ils sont pas. Ben Spies, il est pilote officiel, même s'il est chez Tech 3, il a suivi de l'usine, une moto d'usine. C'est quand même un peu différent.
Mais bon, ouais.
C'est. Je pense qu'il a largement les moyens de se battre avec lui sur le début de saison, tous les mois.
Andy.
On se sentait tellement à l'aise là au Grand Prix. À part le départ, après, il était. Alors, il est
justement,
remonté dessus.
Justement, j'ai parlé avec Randy sur Spies, parce qu'il a roulé derrière. Il m'a dit qu'il forçait beaucoup à l'entrée de virage, qu'il ratait beaucoup ses points de corde. C'était étonnant, mais qu'il sortait quand même relativement bien. Et que sur un tour, ça faisait quand même des chronos. Il était assez étonné de la façon dont il se posait.
Rémi, votre avis sur Ben Spies?
C'est son pote, mais je pense que Ben Spies, désolé Randy, je pense que Ben Spies est un tout petit peu plus fort.
Bon, je pense pas. Je pense que Randy, quand il est en forme.
Encore une fois, il a un soutien. Il a le soutien d'une équipe plus importante que Randy. Randy, il a une petite équipe.
On a expliqué déjà l'histoire. Il a déjà attaqué ses 6 moteurs. Randy, dans cette équipe satellite, ce sera pas le cas pour Ben Spies chez Tech 3. Il y a plein de choses en plus. Et ça, ça va faire la différence.
C'est difficile de comparer de plus fort ou moins fort. Mais en tout cas, Spies arrive quand même dans la catégorie. Il a que 5 Grands Prix. Et il a une marge de progression. Et je pense que c'est quelqu'un qui analyse beaucoup.
À Colin Edwards dès le premier Grand Prix.
Oui, et puis qui était dans les temps de Lorenzo. Hein. À un moment donné, c'était même souvent le plus vite au tour.
C'était le plus rapide. Maintenant, les chronos, ils sont assez serrés. Les meilleurs temps en course, les 5 premiers, là, c'est assez proche, enfin, même des 7 premiers.
Oui, Michel, je suis étonné quand même. Philippe, vous avez remarqué qu'il y a toujours le mur chez Tech 3, alors qu'ils avaient dit que c'était super copain, les deux Texans, que ça ne serait pas comme l'année dernière avec Tosland. Ils expliquent que c'est pour des facilités de sponsor. C'est bizarre. Je suis descendu.
Vous dire qu'il y a toujours une séparation entre Colin Edwards d'un côté et Ben Spies.
Il y avait la course de voiture au Castellet, donc je suis descendu quelques instants. Je suis rentré du côté de Ben Spies. Il faisait une tête, ça m'a fait peur. J'ai vu la mer et je suis allé du côté d'Edwards. Parce qu'elle est là, tout le temps, je peux vous dire.
C'est la mer qui vous a fait peur.
Ça fait.
Ta mère.
Et du côté d'Edwards, c'est toujours comme d'habitude détendu.
Mais qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, non, mais je voulais dire.
C'est vrai que je voulais pas parler. Il a vu la mer.
Ben oui, il a vu la mer. Mais Hayden, bien, hein, quand même.
Oui.
C'est intéressant de voir qu'un autre pilote est capable d'attaquer avec une Ducati. C'était pas arrivé depuis longtemps.
Non, je pense que ça a dû consoler un petit peu l'équipe italienne.
Un petit peu.
Parce que les deux autres, par contre, ils ont fini à plat entre chez Pramac.
Ta mère en MotoGP.
C'est ça. Le prochain livre que va écrire Rémi Tissier, ta mère en MotoGP.
Faut que vous l'interviewez d'ailleurs cette année, hein, c'est votre challenge à tous les deux, Philippe ou Michel.
Attention, c'est enregistré.
La maman Spies.
Michel.
Attendez, mais elle a un rôle très important,
toi,
Michel.
C'est
moi, je suis en cabine.
C'est plutôt votre genre.
Elle est
Philippe.
Plus de mon âge, c'est vrai.
Mais Jules, non, rien à dire sur le sujet.
Je connais pas la mère.
Alors, on en a parlé tout à l'heure. Hormis Stoner, si Valentino Rossi a bien un rival, il s'agit donc de Jorge Lorenzo, on peut le dire. Son propre coéquipier, l'Espagnol, 3e temps des qualifs, s'est retrouvé 6e après quelques tours et a donc passé le reste de la course à remonter. pour finalement une deuxième place au classement.
Mais comme quoi, il faut magnifique. Jamais rien lâcher, hein, parce qu'il a, il a attaqué jusqu'au bout. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il pouvait revenir. Et puis une fois qu'il était au contact, et ben c'était, il a expliqué, il a débranché, il a attaqué au maxi.
Ce qu'il a fait, Lorenzo, c'est ce que j'aimerais voir faire une fois Pedrosa. Voilà, dans les derniers tours, y aller comme ça, attaquer. Il nous a sauvé le Grand Prix au niveau du spectacle, là, parce que Stoner était tombé. Et les 6-7 derniers tours, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Il a deux mecs à passer.
Ce n'est pas du tout le même tempérament. Voilà. Je pense que Jules est plus proche de Lorenzo en termes de tempérament.
C'est exactement ce que
Non, bah, je pense que chacun a son style. Hein. Pedrosa, je pense qu'il sort la régularité. Et si jamais il se sent bien sur la moto, il est intouchable.
Le problème de Pedrosa, c'est que si ça ne va pas...
Tout se passe bien, voilà.
C'est comme était Biaggi. De toute façon, les deux gagnent les courses de la même manière. Quoi. S'ils partent devant, que tout va bien, ils
sont
bien sur
la moto. Comme était Cadalora aussi, quand la moto était bien. Ouais. Voilà.
Votre préféré en MotoGP, Jules ?
Je vais rester français, hein, on va dire Randy. Maintenant, je pense que ça va se jouer entre Stoner et Rossi, encore une fois.
Et au niveau pilotage, il y en a un où, quand vous le voyez piloter, vous dites oh, vache, c'est comme
je
ça
pense
que
je Stoner, passe. En termes de vitesse pure, il est impressionnant. On le voit, il sort pendant les séances, il fait deux tours, il fait claquer,
suite,
ouais, il fait claquer la pole.
La séance qualif, il sortait des box, il était en 55 direct.
Ouais, il est impressionnant. Mais après, je pense qu'en termes de régularité et d'intelligence au niveau de la course, il faut plus suivre un Valentino Rossi. Parce qu'il est impressionnant de ce côté-là.
Rossi l'avait dit juste avant le premier Grand Prix, cette année ça va être serré. La dernière j'ai fait 3 erreurs, ça sera celui qui fera le moins d'erreurs qui sera champion du monde. Ça commence très très mal pour Stoner. Surtout, là où ça lui coûte cher, Michel, c'est qu'il tombe sur le circuit où il est favori, où on pense qu'il va avoir d'entrée les 25 points. Comment il va dégérer ça psychologiquement ?
Je pense que c'est pas trop, contrairement à ce qu'on a pu croire l'an dernier, où on s'est dit qu'il avait craqué, était fini. Je pense que c'est pas un pilote qui doute. C'est assez brut de fonderie, quoi. C'est gaz, il se pose pas trop de questions, mais c'est vrai que ça peut faire.
Bon, il a déjà 25 points de retard sur Rossi.
Ouais, enfin, bon, il y a 18 courses
devant Rossi.
Je pense que Rossi, l'an dernier, il a eu quoi ? 3 résultats blancs aussi. Donc,
je pense qu'il a volé un joker.
Je pense que Rossi ne fera pas 3 résultats blancs cette année.
Rossi, attention.
Stoner, dépression nerveuse ou allergie au lactose ?
Non, c'était allergie au lactose, c'est sûr et certain maintenant. Mais c'est tout à fait plausible en
c'est
plus.
C'est sa mère. Non, c'est la mère de Ben Smith.
Non, mais je pense que l'année dernière, quand même, les pilotes Yamaha ont fait beaucoup d'erreurs entre eux.
C'est vrai que le combat était.
Bah oui. Mais Rossi va pas vouloir retomber dans le même truc, parce que si Stoner est vraiment là, à ce moment-là, c'est lui qui va être champion du monde.
Enfin, moi, je pense que celui qui après Rossi a le meilleur profil psychologique, je pense que c'est vraiment Lorenzo. Quoi.
Parce que mais bon, Lorenzo avait déjà fini la saison l'année dernière comme un boulet de canon. Il avait été quand même pas mal.
Ah, c'est Stoner qui a fini la saison comme un boulet de canon.
Oui, qui est revenu après le creux de la vague. Mais Lorenzo
Jules, tu parlais tout à l'heure de la difficulté de voir son coéquipier aller plus vite. On a parlé de Pedrosa qui doit ruminer de voir Dovizioso aujourd'hui prendre la première place. Lorenzo, il est face à Rossi, il est derrière, il sait, et pourtant il se démonte pas, quoi. Il craque jamais, l'autre, il y met une pression pas possible. On l'a vu à Barcelone, quand il a humilié, l'autre, il s'est pas démonté, il est pas tombé dans son piège. Mais il va quand même falloir faire
attention Honda aussi, parce qu'à un moment donné, je pense que donc, le moteur il est là, le châssis va fonctionner à un moment donné, c'est pas possible. Donc ils ont quand même deux super pilotes, ça devrait.
Franchement, si un pilote Honda est champion du monde.
Faire de résultats de la saison.
Des résultats, oui, mais champion du monde, Michel, je ne te vois pas parier sur un Pedrosa champion du monde ou un Dovizioso quand même.
Ça paraît compliqué.
Ouais, la saison bien passionnante quand même en MotoGP. À un moment de la course, on voyait, il y avait une Ducati, une Honda, une Yamaha, et c'était tout serré. C'est vrai que normalement au Qatar.
C'était très serré au niveau des chronos.
Ouais, au Qatar, souvent, je me rappelle du Grand Prix de l'année dernière, c'était distance, c'était 10 secondes d'écart entre chaque pilote.
Ça fait 5,3 km quand même le tour, tu vois.
Après, il réserve aussi des surprises avec les moteurs, parce que 6 moteurs pour l'année, bon, si les pilotes sont obligés de faire moins de tours après pour économiser un peu les moteurs sur les séances d'essai et que les Honda qui sont aujourd'hui qui ont plus de problèmes, s'ils peuvent moins rouler pour régler leurs problèmes, ça va aussi jouer sur la physionomie du championnat.
Je suis pas sûr qu'en fiabilité ce soit les Honda qui soient les moins fiables. Hein.
Apparemment non, ils ont pas l'air inquiets puisque même pour ceux qui ont fait déjà les 2500 km d'essai cet hiver, ils pourront composer avec leurs 6 moteurs d'après les Japonais.
À suivre, donc, on va le voir, le grand Valentino a lui donc bien démarré la saison. Il n'avait plus gagné au Qatar depuis 2006, Rémi, c'est ça ?
Je sais pas, c'est... oui, c'est ça, mais en revanche, surtout, il n'avait pas gagné le Grand Prix inaugural depuis 2005, le fameux bloc pass sur Giberno. Et on sait que c'est très important pour lui, il aime bien s'imposer d'entrée. Là, on annonçait comme grand rival pour lui Stoner, voilà, hop, 25
c'est,
points.
Vous l'évoquiez il y a quelques secondes, votre pronostic pour cette saison, allez, lancez-vous. C'est un peu tôt, mais justement, c'est difficile.
Ça, c'est pour les journalistes, ça, allez-y. Oui. Parce que les pronostics, Michel. C'est toujours difficile.
Michel, moi, je pense, comme moi, ça, vu de nez après ce premier Grand Prix.
Enfin, moi, je l'ai dit avant le premier Grand Prix. Je pense que Rossi est encore favori cette année.
Jules.
Rossi aussi. Après, je vois Stoner et Lorenzo. Mais...
Avant le premier Grand Prix, je pensais que Stoner avait une chance. Franchement, en attaquant avec 25 pas de retard sur un monsieur Rossi, je me demande si le plus grand rival ne va pas une nouvelle fois être Lorenzo.
Allez, Philippe, il faut se mouiller. Hein.
Ouais, moi je pense que. Pourquoi pas Lorenzo? Parce qu'il m'a vraiment impressionné en fin de course hier et il est pas encore à 100%. Donc je pense que Lorenzo peut vraiment mener la vie dure à Rossi et à Stoner.
Après, ça va dépendre aussi de ce que Yamaha veut faire pour 2011.
Vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur ce dessin de Loïc Faujour. La force de Rossi, je ne suis pas allergique au champagne. On ne va pas le. Voilà, messieurs, je ne résiste pas, juste avant de nous quitter, de demander à Gilles de la Posta et à Jean-François Biotois de recaler l'image de Philippe Monneret qui tombe.
Il y avait un jeu aussi.
Si, il y a un jeu, mais je vais l'annoncer juste après, mais juste pour le plaisir, si on peut revoir cette gamelle.
Parce que c'est de la gourmandise maintenant.
Oui, c'est de la gourmandise. Ouais. Et vu que vous allez me faire subir dans quelques jours.
Tant qu'on tombe que sur la béquille.
Juste.
Il aurait pu se faire mal quand même. Hein.
Là, tu vois, on peut se faire très mal en tombant comme ça.
Hein. Ah, c'est sous la rigole,
juste.
Ouais. Vraiment, ça a l'air magnifique.
Tu vois que je suis pas si vieux que ça.
Voilà, avant de vous laisser, mon cher Rémi, on va donc donner le nom du gagnant qui a remporté le casque que vous allez voir. Ainsi, alors je ne sais pas si les images qu'on a diffusées juste avant vont franchement l'inciter. Que ce
c'est
magnifique.
Pas un stage sur la béquille.
Il n'y a pas deux gagnants, il a gagné les deux stages de pilotage avec Philippe Monneret, en présence de Philippe Monneret. Une superbe photo là, on ne la voit pas parce que.
Et Régis Laconi.
C'est le gros lot.
Régis Laconi.
Et Régis Laconi.
Et Hervé Moineau.
Là, ça, il vaut mieux qu'il ait gagné un casque. Et donc, cette personne, c'est Bruno Auberti
de Régis Laconi.
Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, qui a donc gagné et le casque et le stage de pilotage chez Philippe. Ça vous brancherait, Jules, une petite virée avec Philippe Monneret pour vous perfectionner?
Non, c'est magnifique.
Bah, ouais. Bah, t'es invité quand tu veux.
Et bah, voilà. Aussi.
Et bah, c'est fait. Prochain motocritique, messieurs, ce sera le 26 avril, on l'a dit tout à l'heure, en compagnie, après le Grand Prix du Japon, en compagnie de Mathieu Kassovitz. On a fait le pronostic de la saison, le Japon, qui gagne, Jules?
Stoner.
Rémi?
Par aussi.
Super, merci.
Bah quoi?
Michel, pas Stoner.
Pedrosa.
Oula, gonflé ça.
Oui, on est chez Honda. Hein.
Oui.
Ah, moi je verrais bien aussi une Honda gagner, Pedrosa.
Très bien. Lundi prochain, même heure, même endroit, vous retrouvez Thomas Biel pour Autocritique.
Et puis, le Rouquin, il est où?
Et je pense qu'il est sur Koh-Lanta quelque part. J'ai un dessin avant de vous quitter, un nouveau record au Grand Prix du Qatar. La note d'électricité, oui, ça fait quelques années que ça dure. Vous pourrez suivre bien évidemment les 24 heures du Mans le week-end prochain en direct en compagnie de Thomas Biel. De Philippe Monneret.
J'y vais avec Christian Lavieille.
Et Christian Lavieille qui sera là également dimanche. Et quant à nous, on se retrouve donc, comme je l'ai dit, le 26 avril. Merci beaucoup, Jules, d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous.
Après ce formidable podium, et on vous en souhaite beaucoup d'autres pour tout le reste de la saison.
Merci à vous.
Bonsoir à tous et à bientôt. We'll be right back.
ça va être à vous là. Attention. 5, 4, 3, 2, 1.
Vous êtes en live.
C'est l'entame du dernier tour. Deux coéquipiers en tête. C'est le Grand Prix rêvé.
Freinage de la chicane. Ça pilote au millimètre.
Oh, les deux hommes au coude à coude. Les autres vont se toucher.
Allez, ligne droite des stands. Bien se passer pour accélérer.
Allez, l'attaque, ça passe.
Sur Eurosport, faites l'expérience de la MotoGP en live avec Rémi Tissier et Philippe Monneret.
On m'avait dit que je ne trouverais jamais ce que je désirais. Mais lorsque je suis arrivé ici, tout le monde semblait savoir exactement où je devais chercher. Alors, j'ai arrêté de chercher pour me laisser guider par le pays et son peuple. Sentir revivre. Et j'en suis reparti enrichi de 1000 souvenirs. Afrique du Sud, c'est possible.
Adidas présente le déodorant Action 3 Dry Max System. Jusqu'à 40% d'efficacité en plus. Nouveau Action 3 Pro Invisible. Le meilleur déodorant contre les traces blanches par Adidas.
Dans la vie, il faut savoir tourner les événements à son avantage. Ne pas laisser de place au hasard. Moi, c'est ma règle du jeu. Je saisis ma chance. Déodorant Playboy. Press to play.
Jusqu'au 31 mai, profitez de 3700 euros d'avantages clients sur le Beeper Tipeee Outdoor Pack suréquipé.
Un seul pays, tant de souvenirs. Afrique du Sud, c'est possible.
Sommaire d'Eurogolf cette semaine, la 33e journée de Serie A en Italie offrait à la Roma la possibilité de prendre les commandes du Calcio devant l'Inter. En Allemagne, le Bayern, Leverkusen et Schalke 04 pouvaient asseoir leur domination et s'échapper au classement. L'ont-ils fait ? On verra ça dans quelques minutes. On verra aussi ce qui s'est passé en Espagne avec le Clasico entre le Barça et le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Du côté des Pays-Bas, le FC Twente pouvait conforter son avance au classement. Mais attention, retour fulgurant de l'Ajax. Au Portugal, Benfica leader joue ce mardi contre le Sporting. Derrière, Braga pouvait en profiter pour revenir au classement. Enfin, en Russie, cinquième journée, le CSKA Moscou devait se reprendre après son élimination en Ligue des Champions. On débute avec la 33e journée de Serie A. Le leader, l'Inter Milan, était en danger sur la pelouse de la Fiorentina, 8e. Avec un seul point d'avance sur la Roma, les hommes de José Mourinho, tout juste qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, n'ont pas le droit de se rater. Ça commence plutôt mal. 11e minute, Komoto sert parfaitement Kerrison qui ajuste Julio César. Ça fait 1-0. Ce sera le score à la pause. Et les interistes vont trembler une bonne partie du match. Ils vont quand même réussir à revenir à un quart d'heure de la fin grâce à Milito, après un bon travail de Schneider et de Maicon. Les Nerazzurri pensent même faire le plus dur. 6 minutes plus tard, Samuel Eto'o marque là son 11e but de la saison dans le Calcio. Espoir de courte durée, puisque quelques instants plus tard, quasiment sur la remise en jeu, la Viola obtient un corner, on va le voir. Koldrup pousse la balle au fond des filets. Ça fait 2-2. Et 2-2, ce sera le score final. Mauvaise opération de l'Inter qui laisse la possibilité à la Roma de passer devant au classement. En forme olympique, la Roma sait qu'en cas de victoire face à l'Atalanta Bergame, le titre est plus que jouable. Et face à une équipe relégable, les joueurs de la capitale ne laissent pas passer leur chance. 12e minute, Vucinic trompe la vigilance du gardien adverse. Un gardien adverse qui passe complètement à travers, frappant dehors de la surface, mal maîtrisé par le gardien. Ça fait 1-0. On n'a pas encore atteint la demi-heure de jeu que la Roma double la mise. Centre impeccable de Totti pour la tête de Cassetti. 2-0. En deuxième période, les hommes de Ranieri gèrent. Ils vont se faire contrer à la 53e minute par Thierry Bocchi. 2-1, on en restera là. Excellente opération de la Roma. Nouveau leader du Calcio avec un point d'avance sur l'Inter. La Roma n'avait plus été en tête du championnat depuis 2 ans et demi. Le Milan AC, 3e, légèrement décroché pour le titre, a sans doute perdu beaucoup ce week-end. À San Siro face à Catane, les rossoneri font un départ catastrophique. 12e minute, Ricciuti trouve Maxi Lopez sur l'aile droite. L'Argentin joue parfaitement le coup et il ouvre le score. Et juste avant la pause, la situation devient critique pour les Lombards. Nouvelle action, Ricciuti, Maxi Lopez. Le ballon revient sur la tête de Ricciuti. Ricciuti qui va profiter d'une défense complètement amorphe pour doubler la mise. 2-0 à la mi-temps pour Catane. Les hommes de Leonardo se réveillent enfin en seconde période, très rapidement, 48e minute de jeu. Sidorf centre pour Borriello qui réduit la marque. Et à 10 minutes de la fin, le pressing milanais se concrétise. Abatté sur la droite, voit Borriello bien placé. L'attaquant milanais contrôle et frappe. 13e but de la saison qui permet à Milan d'arracher le match nul. Un point qui sera sans doute regrettable à la fin de la saison. Palerme en course pour la 4e place qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions devait absolument s'imposer face au Chievo Vérone, englué en milieu de tableau. Ça commence mal pour les Siciliens. 18e minute de jeu. Paola intercepte une balle mal repoussée par la défense. Ouverture du score contre le cours du jeu. 1-0 pour le Chievo. Palerme à la bagarre avec la Samp, notamment pour la 4e place, doit réagir. Et Pastore de la tête remet les siens sur les bons rails 10 minutes plus tard. 1-1. Palerme va ensuite prendre les devants avant la mi-temps. 39e minute, Liverani est bousculé dans la surface. Pénalty accordé et transformé par Micoli. 2-1 à la mi-temps. Micoli qui scellera le score du match avant l'heure de jeu sur ce tir en dehors de la surface. 15e but de la saison pour Micoli. Et Palerme conserve sa 4e place. Palerme garde sa 4e place et la différence de but par rapport à la Sampdoria qui jouait un derby fratricide avec le Genoa. Un seul but sera marqué dans la rencontre. Il est l'œuvre d'Antonio Cassano à la 23e minute de jeu pour la Samp. Match âpre où 9 cartons jaunes seront sortis par l'arbitre. 1-0 score final. La bataille pour la dernière place disponible en Ligue des Champions continue donc avec Palerme. Toujours fébrile, la Juventus de Turin n'a plus que le championnat pour sauver sa saison. Objectif décrocher une place en Europa League. Mais pour cela, il faut s'imposer face à Cagliari. La vieille dame va souffrir, mais faire le travail quand même. Et du coup, conserver ses chances de jouer la petite Coupe d'Europe la saison prochaine. Et Bianconeri marque à la 35e minute de jeu grâce à Chiellini après un bon travail d'Amaori. Avec cette victoire, la Juve se replace 6e avec 2 points d'avance désormais sur Naples. Naples qui fait la très mauvaise opération en perdant à domicile contre Parme. Défaite à domicile également de Livourne face à l'Udinese au classement. Rome va passer devant l'Inter au classement. Le Milan AC perd du terrain sur les deux premiers. Suivent Palerme, la Sampdoria et la Juve. En bas de tableau, l'Atalanta a sans doute dit adieu à la Serie A, tout comme Sienne et Livourne déjà condamnés. Real Madrid-Barça, le Classico a une nouvelle fois tourné à l'avantage des Blaugrana lors de la 31e journée de Liga. Vainqueur 6-2 l'an passé à Bernabeu, le Barça a une nouvelle fois déroulé grâce à son Messi, auteur d'un match énorme. Score final 2-0 pour les Catalans grâce à Messi et Pedro. Un but dans chaque mi-temps et désormais une avance de 3 points au classement. Le plus dur est peut-être fait en vue du titre pour les hommes de Guardiola. En revanche, pour L'Oréal et Cristiano Ronaldo, transparent ce week-end, c'est sans doute une nouvelle saison sans le moindre titre qui s'annonce. Ils ont été beaucoup plus efficaces que nous. C'est sur ce genre de match que se joue le titre. On savait que l'équipe qui marquerait en premier gagnerait. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais bon, Barcelone a montré plus de choses que nous aujourd'hui. Ils ont très bien joué. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer. Maintenant, il nous reste 7 matchs pour inverser la tendance. On verra si c'est possible. Messi a inscrit son 27e but de la saison en Liga cette saison, donc il est le Pichichi. On va célébrer ce résultat un peu plus que d'habitude, hein, parce que c'est un derby contre le Real et on est mérité de gagner. Le Barça peut, comme la saison dernière, espérer signer au moins le doublé Liga, Ligue des Champions. Parmi les autres résultats de cette 31e journée, Valence s'incline à Majorque 3-2. Le FC Séville signe une belle victoire à Malaga. L'Athletic Bilbao domine Almeria 4-1. Le FC Barcelone est plus que jamais leader avec 3 longueurs d'avance sur le Real. Suivent Valence, Séville et Majorque. En bas de classement, Tenerife, Valladolid et Rérez sont condamnés ou presque. Ne bougez pas dans quelques instants, tout ce qu'il s'est passé en Bundesliga et puis un petit peu plus tard, il y aura également Champions Club.
Un seul pays, tant de souvenirs, Afrique du Sud, c'est possible.
J'envoie Go au 62 333 et je dialogue avec des milliers de filles. Je tape mon numéro de département, mon âge et tous les connectés en ligne près de chez moi me branchent direct sur mon mobile. Salut Isa. Go au 62 333. Go au 62 333.
Boat Acha.
La nature avec les riders Husqvarna. Toutes les informations sur www.husqvarna.fr.
Suivez toute la saison automoto sur Eurosport.fr. Toutes les réactions et chronos en direct des Grands Prix ainsi que la F1 et la WTCC en intégralité.
Un seul pays, tant de souvenirs. Afrique du Sud, c'est possible.
Après son exploit de la semaine dernière et l'élimination de Manchester United en Ligue des Champions, eh bien le Bayern Munich avait un bon coup à jouer. Pour cela, il fallait confirmer cette belle performance en dominant Leverkusen qui restait sur trois défaites consécutives. Mais attention, Leverkusen n'est pas un faire-valoir de ce championnat allemand. C'est pourtant le Bayern Munich qui obtient la première possibilité d'ouvrir le score sur un pénalty converti par Arjen Robben, le néerlandais. Après que Franck Ribéry eut obtenu ce pénalty en se faisant faucher dans la surface de réparation. Mais à l'heure de jeu, eh bien, le Bayer Leverkusen va égaliser de manière méritoire grâce à Vidal qui inscrit son premier but cette saison. Un splendide coup franc qui trouve l'équerre avant que le joueur du Bayer Leverkusen ne reprenne de volée et de près. Un but partout, ce sont deux points perdus bêtement pour le Bayern Munich. L'attaquant suisse du Bayer Leverkusen qui estime qu'il a montré un bon match. Après notre série de défaites, c'était important de repartir et de montrer quelque chose de positif. Je crois qu'on y est parvenu, que le Bayern a souffert. Je pense même qu'on aurait pu gagner parce qu'on a bien joué comme on l'a fait depuis le début de la saison de manière générale. Malheureusement, il y a eu ce pénalty. Au final, quand même, on a bien réagi et c'est l'essentiel. Battu par le Bayern Munich le week-end dernier, Schalke avait une possibilité donc de rebondir et de reprendre pourquoi pas la main sur ce championnat allemand. Qui plus est, les joueurs de Gelsenkirchen se déplaçaient du côté de Hanovre qui est une équipe menacée. Et bien malheureusement les choses ne vont pas se passer comme les bleus de Schalke l'espéraient, avec dès la 17e minute l'ouverture du score contre son camp du défenseur Westermann. Dans la foulée, Hanovre va poursuivre sur cette foulée, une sortie complètement manquée du gardien de but, Neuer. Et c'est Jaakonen qui double l'avantage de Hanovre. Juste après le repos, Schalke va se reprendre, les hommes de Félix Magath qui combinent bien sur le côté droit. Kourani récupère, il donne à Edu. Edu qui ramène les équipes à 2-1. Il y aura ensuite un pénalty accordé à Schalke 04, pardon, pour cette faute commise de nouveau sur Kourani. Et c'est Rakitic qui offre l'égalité à Schalke. On croit alors Schalke reparti dans une bonne spirale. Et bien à 10 minutes du terme, pourtant, c'est Hanovre qui va se créer une occasion qu'il va convertir grâce à une splendide frappe du pied droit qui vient aboutir dans la lucarne du but de Neuer. Regardez, demi-volée, pleine lucarne, 3-2 pour Hanovre. Et puis dans les derniers instants, alors que Schalke tentait le tout pour le tout, eh bien c'est Hanovre qui, sur un ballon de contre-attaque, va inscrire le quatrième et dernier but, le huitième de la saison pour Jaakonen. Et Hanovre qui remporte un succès plutôt inattendu, qui pourrait les sauver en fin de saison et qui plombe surtout les ambitions de Schalke. Mayence, de son côté, accueillait le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui reste sur une belle série avec 4 défaites et un match nul lors de ses 5 dernières sorties. Et bien pourtant, Mayence
mal classé également de cette Bundesliga à la 10e place, va se faire la tête des jaunes et noirs. 1-0, un but signé Salai, l'attaquant hongrois de Mayence à la 30e minute. 1-0, le score ne changera plus. Un score qui, on s'en doute, ne fait pas du tout les affaires du Borussia Dortmund, qui coince un petit peu à la 4e place. Au cours de cette 30e journée, le Werder Brehme s'est facilement imposé contre Fribourg. Hambourg a dominé Bochum 2-1. Et Stuttgart en a fait de même à Berlin, poussant un peu plus encore le Hertha vers la division de haut classement. Schalke n'a donc pas profité de l'aubaine et perd même un nouveau point sur le Bayern qui reste leader. Leverkusen suit à 6 longueurs et le Borussia à 8. Brehme est 5e, Hambourg 6e dans le bas du tableau. Ça commence à sentir mauvais pour le Hertha Berlin, 4 journées de la fin du championnat. Mais de Nuremberg à Berlin, tout peut encore arriver. Dzeko est le meilleur buteur. Seulement 6 matchs ont été joués en Angleterre. Manchester United a perdu 2 nouveaux points en concédant le nul à Blackburn. City a écrasé Birmingham et Liverpool n'a pas trouvé l'ouverture face à Fulham. En attendant son match contre Bolton, Chelsea reste donc en tête avec un point d'avance sur les Red Devils. Arsenal, qui doit se déplacer à Tottenham mercredi, est 3e et Manchester City s'est solidement installé à la 4e place. Liverpool perd le contact et dans le bas, Portsmouth, qui s'est qualifié pour la finale de la Cup, est relégué en Championship. Aux Pays-Bas, le leader de ce championnat, Twente, accueillait dans son antre l'équipe de Heerenveen, l'équipe du ventre mou du classement. La première action, elle va être à mettre à l'action.